Je voudrais ici rapidement donner quelques étapes de la croissance de l'identité à partir de la conception jusqu'à l'âge adulte, l'enfant qui est en nous. Pourquoi est-ce que notre identité, on n'est pas en relation avec ce qu'il y a de plus concret, de plus réel en nous-mêmes? On ne se retrouve pas comme fils. Il faut retrouver cette filiation en faisant ces actes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des actes de prise de possession volontaire, libre, lucide, où on retrouve non seulement notre origine, mais aussi notre plénitude de fils. Il faut être aidé très très fort par une maternité réelle, une maternité corporelle, une maternité de grâce, une maternité spirituelle, une maternité contemplative, une maternité d'amour qu'on trouve grâce à l'Immaculée, à condition d'être entièrement dans un état de reconnaissance, de gratitude et de pardon vis-à-vis de sa maman. Et pareil pour ce qui concernerait les blessures vis-à-vis de la paternité, être dans les mains, dans les bras du Père et retrouver cette paternité de Dieu dans notre chair, dans notre sang, dans notre vie, dans notre cœur, en pardonnant totalement à notre Père, en ayant une gratitude et en faisant ce geste d'amour qui est celui de Jésus en fait, puisque Jésus a fait un tout petit geste, un tout petit geste, le Verbe a fait un tout petit geste et il s'est incarné en Marie pour nous aimer. Et il a aimé chacun d'entre nous en nous pardonnant. Et ce petit geste que nous faisons, nous le faisons avec Jésus, un tout petit geste, rien du tout, un petit mouvement du corps qui a le désir de pardonner infiniment à notre papa et de retrouver notre origine paternelle en Dieu en même temps. Et d'aimer, du coup, en plénitude, faire ces petits actes de plénitude, de confiance, d'abandon et d'humilité pour être fils. Pourquoi est-ce que, donc cette fois-ci, dans cette petite heure, nous allons regarder, essayer de regarder, très délicat, d'essayer de regarder pourquoi est-ce que c'est si difficile à faire spontanément. C'est-à-dire, si je veux aimer sincèrement toute cette responsabilité, cette autorité que je dois avoir sur l'autre, ou que l'autre est autorité sur moi, cette obéissance, cette confiance, cet abandon, pourquoi c'est si difficile, cette peur vis-à-vis de la vulnérabilité, de l'amour. Pourquoi? Eh bien, ça vient évidemment de ces souvenirs, de ces blessures, de l'amour. Dans la conscience d'amour, à cause du mouvement centripète et centrifuge dont je vous ai parlé, je compare sans arrêt ce que Dieu donne, ce que Dieu m'a donné, et ce que Dieu voudrait, ce désir d'amour, et ce désir d'être aimé, ce que je reçois comme amour de mes parents. Et je fais toujours cette comparaison et je m'aperçois que je ne suis pas autant aimé que je n'en ai besoin. Et donc je fais une expérience de non-amour, parce que je ne suis pas regardé pour moi-même. Alors je suis blessé et je perds mon identité. Mais cette blessure, cette conscience d'amour blessé, et va avoir des répercussions différentes selon l'âge. Selon l'âge que j'ai. L'expérience de non-amour gardée dans la mémoire très profonde du corps, parce que ça induit des mouvements corporels de défense, puis plus tard des mouvements psychologiques de défense, puis enfin des mouvements volontaires et lucides de défense. Et selon les origines de ces expériences de don d'amour, selon l'âge que j'avais, ça ne va pas engendrer les mêmes troubles d'identité. Voilà, donc il faut regarder un petit peu ces étapes, parce qu'il faut pouvoir faire anamnèse. Accepter de mourir un petit peu à toute cette vision qu'on a soi-même dans le courant. Vous voyez, en se laissant aller dans le courant, en disant « Oh, qu'est-ce que je suis mal !» Et faire mourir tout ça, accepter de mourir, et faire cette anamnèse, hein, retrouver cet acte de plénitude, faire un acte d'amour. Et pour faire anamnèse, c'est quand même, il n'est pas mauvais du tout non plus de regarder la réalité naturelle, vous voyez, pas seulement psychologique. C'est très connu des psychologues, ce que je vais vous dire là. C'est connu aussi de Dieu, c'est connu aussi de la tradition de sagesse, bien entendu. C'est très utilisé par la psychologie et malheureusement très peu utilisé par la direction spirituelle. Mais nous devons nous-mêmes accepter une direction spirituelle, une anamnèse qui intègre cet amour, cet besoin de se reprendre entièrement pour aimer jusqu'au bout. Donc les étapes. Donc il ne faut pas fermer les yeux sur ces origines parce que nous-mêmes, nous sommes source d'amour et nous engendrons ces blessures. À ceux, à propos de qui, vis-à-vis de qui nous sommes source de vie, de lumière et d'amour. Voilà. Alors, selon les étapes de la croissance de l'enfant, vous savez que ce qu'enseigne donc l'écriture, c'est qu'il n'y a pas de préexistence des âmes. Donc tout commence, c'est pas notre âme n'est pas là, qui se balade, et puis qui finalement, comme diraient des amis comme ça qui s'appellent les Meurois Givaudan, enfin, écrivent des bouquins entiers là-dessus, et tu te balades, tu es créé par Dieu, on suppose, et puis un jour tu te dis, tiens, je suis très adapté, oh ce petit ménage, ce papa, cette maman formidable, tu arrives, tu attends que, qu'ils fassent leur œuvre, et oui, tu te précipites et tu intègres la première cellule. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est parce que tu as eu une vie antérieure, ça n'avait pas marché avec le précédent, et tu vois que c'est cela qu'il faut au plus. Non, non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de préexistence des âmes. C'est l'origine. Ce n'est pas l'origine dans le temps. Ce n'est pas Dieu. C'est ton père et ta mère. C'est très important de comprendre ça. C'est que Dieu, pour créer, pour devenir ton père, va obéir. Il est entièrement livré, il est entièrement obéissant. Oh, une écoute par rapport à tout autre, totale. Et il y a cette écoute de Dieu qui est créateur, qui est père, qui est vie, qui est tout amour, qui est lumière, qui est dans l'éternité, lorsque dans le temps, l'unité sponsale et le Père et la Mère s'unissent, alors Dieu, pas toujours, je crois que statistiquement c'est une fois sur 200, mais pas toujours, mais va diffuser de l'intérieur de la première cellule une âme spirituelle, va créer l'existence même spirituelle et subsistante d'une personne, en unissant l'âme spirituelle qu'il donne, l'esprit vivant qu'il donne, dans la vitalité biologique du corps qui vient des parents. C'est extraordinaire ce respect de Dieu pour ses enfants. Il les laisse libres d'aimer. Et lui, il vient pas consolider, il vient super substantialiser, vous voyez, cette espèce d'âme, cette espèce d'extraordinaire obéissance de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, le pape dit à propos même du mystère de l'incarnation, quand le Verbe a pris chair dans le sein de la Vierge, eh bien, il a fallu que, quelque part, il attende le oui de la femme jusque dans sa chair, mais que ce oui de la femme jusque dans sa chair ne pouvait pas être prononcé par elle si elle n'avait pas été entièrement dépendante de son mari, qui s'appelait Joseph, qui s'appelait Joseph. Si elle n'était pas dans une unité totale, corps, âme et esprit avec son mari, une seule âme, une seule vie, et de l'intérieur, un seul corps, c'est avec son mari, une unité sponsale. C'est à partir de cette unité sponsale que dans la chair de la femme, la paternité incréée de Dieu a saisi en elle ce qui relevait de l'unité spontanée. Le Verbe de Dieu a pris dans le corps de Marie pour se former un corps, ce qui dans le corps de Marie était animé par l'unité totale de la présence physique de Joseph en son corps de femme. C'est pour ça qu'il était nécessaire qu'il y ait une sponsalité entre Marie, toute vierge qu'elle fût, n'est-ce pas, avec Joseph. Et il y avait vraiment quelque chose de très fort. Vous voyez, quand le Verbe a été envoyé par le Père, il s'est incarné par obéissance aussi. Le Père obéit, le Fils obéit, l'amour obéit. Et donc, il est relatif à un autre. Il nous a créés, il nous aime. Il nous attend. Et donc, tout démarre dans l'union du Père et de la Mère. C'est le premier moment. C'est évident que ça joue un rôle très important. Puisque c'est tout ce qui est disposition. Toutes les dispositions de notre identité sont inscrites là, dans la manière dont l'union de l'homme et la femme s'est réalisée pour présider à l'unité sponsale et à la fécondité vis-à-vis de l'enfant. Si, vous voyez par exemple, pour prendre quelqu'un comme Anne et Joachim, que vous connaissez bien, hein, quand ils ont réalisé l'unité sponsale qui a présidé à la conception de l'Immaculée Conception, vous vous rendez compte, toutes les dispositions sponsales étaient dans un état de plénitude, entièrement brûlées par toutes les relations incréées et créées. C'était un don de l'Esprit-Saint, c'est évident, hein. Mais si Marie a pu être créée Immaculée Conception, c'est parce que les dispositions sponsales de son père et de sa mère, dans l'unité profonde de leur fécondité, ont réalisé cette conception de manière immaculée, sainte. Dieu n'était pas exclu. La grâce messianique était totalement présente. L'onction, la présence, la lumière, l'amour, transformaient de l'intérieur toute la féminité et la masculinité pour qu'elles se réalisent dans une santé totale et une unité intégrale. La conception, donc, du côté des parents était immaculée, c'est une simple disposition. Et c'est pourquoi elle a rendu possible aussi, quelque part, la possibilité. Vous voyez, si on a été conçu... on peut très bien avoir été conçu dans quelque chose de dans le contraire, dans une éprouvette, dans le contraire de l'union réelle entre l'homme et la femme, de l'union physique, de l'union spirituelle, de l'union. Ce premier instant, c'était tout à fait différent. Ça marque quelque chose, ça a une importance très grande par rapport à toutes sortes donc de pas de blocages mais de difficultés qu'on aura donc par la suite. Alors, heureusement, bien entendu, hein, ce serait dramatique. Vous vous rendez compte, ce serait dramatique s'il n'y avait pas la grâce, s'il n'y avait pas un rédempteur, s'il n'y avait pas Marie, s'il n'y avait pas les sacrements, s'il n'y avait pas l'union transformante, si, vous voyez, c'est sur ce qui manque. Pouf, Jésus bétonne, c'est ça qui est extraordinaire. Ce serait fou. Ce serait fou. Pourquoi est-ce que Jésus à la croix, ah, c'est le moment, il nous donne Marie, plénitude de grâce. C'est pour qu'on puisse vivre notre conception comme elle a vécu sa conception dans une plénitude de grâce et de gloire, dès le départ. C'est Jésus qui nous la donne. C'est notre sœur jumelle. Deux jumeaux, vous savez, dans la première cellule, il y aura deux jumeaux. Au départ, il n'y en a qu'un, mais dès qu'il y a une division cellulaire, et que la première cellule de l'autre apparaît, deuxième acte créateur de Dieu, c'est formidable d'être créé avec l'Immaculée, enveloppé dans la conception de l'Immaculée Conception. C'est beau ça. Donc, je ne veux pas regarder à chaque fois les... Prenez ça comme principe, bien sûr. Ce serait dramatique s'il n'y avait pas Jésus, s'il n'y avait pas la rédemption, si Dieu n'avait pas suppléé par l'amour en donnant tout. Et en donnant sa grâce, en donnant sa vie, en donnant sa gloire, en donnant son éternité. Ce serait dramatique. Mais justement, ce n'est pas dramatique puisque c'est extraordinaire. Il nous a donné son Fils. Mais ça n'enlève pas les blessures. Ça n'enlève pas les blessures qui vont être reprises si elles sont vécues dans l'oblativité, dans la vulnérabilité. Ça n'enlève pas toutes ces... C'est pas parce que Jésus est là que du coup, bon allez hop, hein, moi c'est mon fils, hein, je suis par exemple un père et mère, et ben, allez hop, en éprouvette, hein, le prochain. En éprouvette, puisque de toute façon Jésus bétonne par derrière. Hein? Non, attention, oui. Il faut quand même être humain. On va dire c'est pas grave, c'est pas si dramatique. C'est vrai quand on regarde ces enfants qui ont maintenant 10 ans là, qui ont été engendrés, conçus en éprouvette. Ils sont plaisants, vous savez. Ils sont beaucoup plus vifs que les autres, en plus, bien souvent. Et du point de vue de la profondeur aussi. Peut-être parce que, justement, ils n'ont pas comme nous cette relation avec une conception, une unité spensale. Oui. Nous, on a été conçus dans une unité spensale de nos parents, pour la plupart d'entre nous, totalement séparés de Dieu. À cause des tabous. Oh, quand même, nous n'allons pas réaliser l'unité conjugale en présence de Jésus, de la grâce, de l'Esprit Saint. On va faire oraison à un autre moment, s'il vous plaît. Hein. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. C'est mal. Hein. Mal. L'amour entre l'homme et la femme, c'est mal. La communion des personnes, c'est mal. On a tous, la plupart, été conçus comme ça. Le petit garçon d'éprouvette, ma foi, il n'a pas à subir peut-être cette blessure-là, qui est la nôtre. Alors donc, rentrons dans une nouvelle société où on va concevoir tous les enfants en éprouvette. Comme ça, on ne sera pas blessé par l'absence d'une spontanéité imbibée de la présence même de la vie divine, du Créateur, du Rédempteur et de la grâce. On peut dire ça aussi. Mais l'Église ne dit pas ça. L'Église dit non, il faut être responsable. Il faut ni l'un ni l'autre. Ne réalisez pas l'union entre vous comme le font les païens en obéissant uniquement à leurs désirs. C'est pas comme ça. On le fait de manière totale, de manière sponsale, de manière sainte. Le sacrement étant là, c'est peut-être aussi grand et en tout cas plus glorieux qu'une messe. Et Dieu sait qu'une messe, c'est quelque chose de très extraordinaire. Mais pas d'éprouvette et pas de concupiscence. Vous voyez ce que je veux dire dans concupiscence, avec tous les imaginaires qui traînent par derrière, la réduction à l'objet, l'esclavage. Les troubles d'identité qui s'actuent, qui se cristallisent. La monstruosité. Non, l'unité sponsale, c'est très fort. Vous voyez, donc le premier moment de la blessure, c'est la disposition antérieure à l'acte créateur de Dieu, l'unité sponsale des parents. Une fois que le deuxième moment est toujours totalement exempt de toute blessure. C'est au moment où Dieu crée une âme spirituelle dans la première cellule. Alors là, c'est un moment de ravissement. de transfiguration, de clarté spirituelle, de contemplation, qui ne dure qu'un instant. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps ça dure. Est-ce que ça dure jusqu'à ce qu'il commence à y avoir un jugement possible, autonome de l'enfant, une relation affective possible de l'enfant à la mère? À ce moment-là, ce serait pendant plusieurs dizaines de jours qu'il y aurait cet état extraordinaire. Ou bien juste simplement l'instant de la présence lumineuse, physiquement ressentie et spirituellement éprouvée, imprimée dans la chair, la première cellule qui commence à s'activiser, cette espèce de fulguration qui fait qu'on est tout amour, tout amour, tout amour, tout amour. Jusqu'à ce qu'on puisse éprouver de ce même amour venant du cœur de Dieu dans ma mère. Donc ce deuxième moment est toujours exempt totalement de blessure. C'est même le moment un moment qui demeure tellement fort en nous. C'est comme on dit, vous savez, la bombe atomique, vous faites exploser la structure atomique, vous regardez l'énergie qu'il y a. Et bien c'est une image pour nous faire comprendre ce que dans toutes nos cellules, il y a une force, une énergie divine, un amour, une puissance, une réserve de lumière, d'amour, de vie, d'identité, qui est inépuisable. On appelle ça l'image, l'innocence divine qui est en nous, la présence perpétuelle d'amour, de lumière et de vie de celui qui nous donne la vie. Et ça, c'est inscrit dans le corps. Vous voyez, ça, c'est toujours exempt de blessure. Le troisième moment va se suivre une phase symbiotique, c'est-à-dire que l'enfant commence à devenir embryon puisqu'il se divise et il va devenir... Enfin, je laisse les phases blastocytaires, tout ça, parce que vous n'êtes pas médecin, ni moi non plus. Mais ça devient un amas cellulaire, comme disent certains, mais ce n'est pas un amas cellulaire. Il devient un corps qui petit à petit reste informe, n'a pas forme encore, on ne voit pas encore de tête, tout ça. Mais il est dans une phase symbiotique. Et donc, il est totalement en symbiose, ça veut dire ça veut pas dire fusion, hein. Attention, vous voyez la différence entre symbiose et fusion. Fusion, le corps de la mère, le corps de l'enfant, kiff-kiff. Hein. C'est pour ça. Il y a plein de mères qui sont blessées, plein de jeunes femmes qui sont blessées par rapport à cette phase-là. Et quand elles sont elles-mêmes mères, elles considèrent qu'elles ont un droit vis-à-vis de ce corps, parce que c'est leur. Ont un droit sur leur corps. Et donc quand elles pensent que c'est un droit qu'elles ont, voyez, le droit de vie et de mort sur mon corps, je peux faire de mon corps ce que je veux, et donc je peux enlever, je peux tuer. C'était évidemment originé dans quelque chose qui, pour elles, a très mal fonctionné lorsqu'elles étaient dans cette phase symbiotique. C'est ce que les sages appellent la paternité et la maternité responsable. Une mère, disons, normale, sait. Si elle est dans l'agitation, elle ne saura pas. Mais elle sait à quel moment Dieu a donné une âme spirituelle à l'enfant. Elle le sait. Alors, on est très occupé, on est très agité, on est très occupé par plein d'autres trucs, alors du coup, on ne sait pas. Ou alors, elle peut en avoir l'intuition simple, ou s'en douter. C'est moins bien, mais... Ou l'ignorer complètement. Alors, elle découvre, tiens, j'ai plus de règles. Plus de règles. C'est un mois après. Bon, peu importe, mais vous voyez, il y a un problème ici de manque de lucidité, de responsabilité, de connaissance du corps. Il y a une phase symbiotique, elle est importante entre l'enfant et la mère, et elle est indispensable, cette phase symbiotique, pour qu'il y ait deux êtres différents, mais en totale symbiose. totale symbiose. Et cette phase est indispensable pour qu'il y ait une croissance, bien sûr, de l'enfant, et qui fait que cet enfant est à l'intérieur de sa mère comme dans un temple qui lui donne la vie, comme dans un berceau, mais un berceau qui vivifie. Donc c'est un berceau fécond, c'est pas un berceau fabriqué par le papa pour 9 mois plus tard, n'est-ce pas ? C'est un berceau vivant, et ça l'a fait vivre. C'est parce que c'est en la mère, dans ce moment de symbiose avec la mère, que nous sommes tous nés quelque part. L'enfant donc s'attache à sa mère, et en même temps il se prépare à ce qu'on appelle la première séparation. La première séparation a lieu le 8e jour après la conception. Là encore, on peut évidemment, de la conception jusqu'à ce moment-là, il peut très bien y avoir eu... Je pense que, habituellement, il n'y a pas de grande blessure. Il n'y a pas de grande blessure. Il peut y avoir eu des événements graves. Des événements graves. Pas de peau, c'est tombé juste à ce moment-là, quand vous étiez... donc. Avant la première séparation. La première séparation, c'est que vous descendez, vous savez, dans l'utérus, et puis vous allez vous accrocher. Il y a une première séparation. Le 7e jour, le 8e jour, donc là, le groupe cellulaire s'enfonce dans la paroi utérine. Il va en sortir, et puis il va baigner dans un liquide amniotique, vous savez ça, et puis enfin, il va s'accrocher. Il va se séparer donc de la muqueuse utérine et puis il va s'accrocher donc dans le liquide amniotique, là, vous savez. Bon, enfin, mais en tout cas, il s'est séparé de la paroi utérine, vous voyez. Et cette séparation, cette première séparation est importante parce que elle va marquer chez l'enfant dès le départ comme une habitude, tout en n'étant jamais abandonné, en continuant à croître, à vivre en unité et à vivre cette unité pour être de plus en plus séparé. Et cette séparation opère une capacité à vivre une nouvelle vitalisation et une nouvelle unité. Donc vous comprenez, si l'état de la mère est un état catastrophique. Dans ces moments-là, ça interfère sur toutes les expériences ultérieures de séparation. L'amour humain est un amour séparant. Il y a un amour de protection, de vitalisation, et en même temps, il opère une séparation. Il ne réalise pas la fusion. Il est symbiotique. Il appelle la séparation pour une plus grande union. La mère... Bon. Donc, rappelez-vous, on verra d'ailleurs... Les séparations, on en trouve tout le temps, évidemment, vous le savez très bien. C'est les séparations ultérieures, c'est quoi ? C'est la naissance. Quand vous séparez du sein maternel, c'est le sevrage, quand vous séparez de ce sein-là, de la mamelle. Bon, c'est la première fois qu'on sort de la maison pour aller à l'école. C'est la première fois que vous voyez, c'est toutes les séparations. C'est quand on change de ville pour être pensionnaire, parce que, bon, c'est quand on va se marier, quand on rentre au couvent. C'est toutes ces séparations. Il y aura quelquefois, pour certaines personnes, une difficulté énorme à vivre ces séparations parce qu'il y a des blessures très, très, très profondes initiales. Il se peut très bien qu'une phase de séparation, comme celle-ci, se soit mal passée. Elle peut être réparée, elle peut être guérie à l'occasion des autres phases ultérieures de séparation. Si les parents sont attentifs, si l'enfant est éveillé, si la grâce est donnée. Donc, vous voyez, tout attachement, Dieu nous a attachés à notre père et notre mère, mais il nous en détache. Vous voyez bien que dans ce processus de séparation, il faut le comprendre, vous voyez bien quand Dieu crée comme père de tout l'univers, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que ça existe, premièrement, et deuxièmement, il sépare. Vous regarderez le livre de la Genèse, il fait tout le temps comme ça. Comme créateur, il fait que ça existe. Comme père, il sépare. Dieu créa le ciel et la terre. Il dit que la lumière soit existe. Elle exista, alors Yahweh Elohim, donc c'est le Père, sépara la lumière et les ténèbres. Parce que Dieu est amour, donc il réalise un très grand attachement, une très grande dépendance, et comme il est père, il sépare pour qu'il y ait une communion. Tout le contraire, voyez, c'est quand vous entendrez ces mots, hein, fusion, union fusionnelle, union symbiotique, symbiotique c'est bon, union fusionnelle, c'est le terme psychologique, c'est une catastrophe. Parce que si la relation est fusionnelle, alors elle vous enferme et vous étouffe. Et une relation fusionnelle, si vous voulez, elle ne vous ouvre pas à la relation. Elle vous enferme et vous étouffe. Et toute relation fusionnelle, toute relation duelle, voyez, dialectique, duelle, pas trinitaire, mais duelle, deux, toi et ta mère, et puis fusion, cette relation duelle conduit à la mort. Il faut toujours qu'on soit trois. Hein. L'unité sponsale de mes parents, ma source dans le temps, mon père éternel et moi. Dès qu'il y a Dieu, il y a séparation. Dès qu'il y a un père, il y a séparation. Dès qu'il y a de l'amour du Père, il y a séparation. Dès qu'il y a l'amour de la Mère, il y a union. Donc, je vais laisser un petit peu tout ça, mais enfin bon, sachez simplement quand même qu'à la naissance, donc comme je vous le disais, il y a une grande séparation. Et puis l'enfant va grandir. Et il y a un médecin qui est catholique d'ailleurs, pour une fois n'est pas coutume, qui s'appelle Dr Tomatis. Je me rappelle, il s'était occupé de mon frère jumeau quand on était adolescent, et il dit ceci, c'est un chercheur, c'est un type très 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 extraordinaire, Tomatis. Il a des trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais enfin on peut pas, parce que je suis pas en relation fusionnelle avec Tomatis, hein. Donc pas. Non, mais j'aime bien. J'aime bien. Dans l'ensemble, il y a des trucs très très intéressants. C'est un esprit très curieux aujourd'hui. Il doit avoir au moins 84 ou 5 ans. Oui. Complètement chauve. Il est extraordinaire, cet homme. Extraordinaire. Et donc, il est capable de voir, mais alors à force, vous voyez, d'attention, à force d'intériorisation, de respect de l'enfant et de l'homme, eh bien, il est capable de voir quand il y a un enfant avec sa mère, selon une femme, qui a un enfant de 2 ou 3 ans, ou 7 ans, ça dépend, à la manière dont elle se comporte, la manière dont elle porte sa main. Voyez, la manière dont elle porte sa tête, la manière dont la peau rayonne sur son visage, il est capable de dire quelle est la relation qu'elle a avec son mari. Parce que ça se porte sur le physique, ça. C'est très génial. Il est génial, ce type-là. Si vous jamais vous avez des... C'est passionnant, hein, Thomas Tissin, il écrit des livres. C'est très intéressant pour voir plein de trucs, des petits signes. C'est un type qui est un observateur incroyable. Incroyable. Sur le plan... Il est Il a une connaissance, une observation. C'est vraiment un médecin extraordinaire pour ça. Un sens de l'observation, c'est rare, rarissime. Donc, si jamais vous voyez Thomas, n'hésitez pas. C'est très, 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 très beau de voir ça. Et oui, alors selon évidemment que la mère, si elle est en communion avec le père, alors elle va avoir donc un comportement différent. Le médecin, donc lui, il le voit. Et selon qu'elle est en communion avec, très forte avec son mari, l'enfant le perçoit forcément, puisqu'il est en relation avec son corps. Il est en relation avec sa mère par son corps. Il est en relation avec son père par le corps de la mère. Connaissez cette histoire, c'est que vous avez tous pu expérimenter, si vous avez été mère une fois, quand vous êtes enceinte, à peu près vers le 4-5e mois, si vous aimez beaucoup, si la mère aime beaucoup son mari, phénomène qui ne se produit pas si elle ne l'aime pas, ce qui arrive quelquefois, ça, que le père, il parle, il prie ensemble, ou je ne sais pas, ou il parle à l'enfant, le père parle à l'enfant, et la mère reçoit ça. Alors, l'enfant, l'embryon, il se met du côté dans le sein maternel du père. Et puis, bon, alors, simplement qu'il se déplace un peu, qu'il se mette de l'autre côté. Il parle de l'autre côté. L'enfant, il se met de l'autre côté. C'est connu, ça. Mais si la mère n'aime pas, s'il y a un blocage, hein, l'enfant, il ne bouge pas. Hein. Et tous les troubles d'identité qui à partir de là, c'est le père qui donne l'identité. Parce que c'est le père qui est origine de séparation. C'est la mère qui donne la vie et qui fait qu'on est en union, qu'on est attaché. Attention à l'attachement, il ne faut pas qu'il soit fusionnel. Grâce à l'amour du père, grâce à l'amour de Dieu aussi, qui est père, il y a une séparation possible. Et grâce à la séparation, mon identité apparaît. L'amour de Dieu et ses parents, l'amour humain et ses parents. C'est grâce au Père, ça. L'amour humain et l'amour de Dieu est attachant. Il est unissant. Il est vivant. Et ça, c'est lié à la providence de Dieu. C'est lié aussi à la mère. Alors, à cause de ces séparations progressives, naissance, sevrage, etc., il va y avoir des blessures, parce que l'enfant, forcément, il a toujours peur. Étant donné les blessures tout à fait initiales et les dispositions d'avant la conception, et puis surtout, l'oubli de cet amour fulgurant de la conception, de la présence d'amour de Dieu, qui la mettait dans une confiance abandon éperdue jusqu'à la fin de ses jours, dans un oui éternel. Mais tout ça, ça s'est oublié, petit à petit, bien sûr. Alors il a peur d'être abandonné aux séparations successives, il a peur d'être abandonné. Et c'est pour ça que c'est si important pour le père, pour la mère, à chaque fois qu'il y a une séparation, de bien veiller à ce que l'enfant connaisse, à l'occasion de cette séparation nouvelle, un nouvel amour, une nouvelle manière d'être uni, une nouvelle manière d'être engendré dans la lumière, dans la vie, dans l'amour. Et à la naissance, c'est facile, par exemple, de comprendre. Et une manière d'être aimé par père et mère, à la naissance, c'est une nouvelle manière. Il y a une séparation et les parents doivent être très attentifs à la manière dont ils doivent envelopper, j'allais dire, l'enfant, le protéger, le recevoir, le laisser séparer, puis le faire revenir et lui donner une nouvelle expérience d'amour, toute nouvelle, dans une plus grande communion. À ce moment-là, vous voyez, il y a des tas de blessures antécédentes, embryonnaires, qui vont se guérir. Si on n'y a pas pensé, eh ben, on attendra un autre moment. Parce qu'à l'adolescence, il y a des séparations aussi. À la maturité, il y a des séparations. Et quand il y a des drames dans la famille, il y a des séparations. Et c'est pour ça que, vous voyez, vous avez donc des enfants qui sont très différents les uns des autres, parce que selon qu'on a vécu ces séparations initiales, ça va faire des enfants ou bien très, très paisibles, ou bien des enfants très électriques. Et ça, par exemple, dès après la naissance, hein, on le voit, dès après la naissance, des enfants très paisibles. 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis des enfants... incroyable. Moi, il paraît que c'était affreux. Mon frère... C'est pas commode pour une mère, comprenez bien. Il y en a deux d'un coup. Alors le premier qui sort, on s'en occupe. Le deuxième... Non, ça s'est peut-être pas passé comme ça, mais... Mais mon frère, très paisible... Heureusement, des guérisons ultérieures, de toute façon, et c'est très bien. Donc, vous comprenez que ces séparations successives de l'enfant vis-à-vis de sa mère, du fils vis-à-vis de sa source vitale, vis-à-vis des sources de son attachement profond, de sa reconnaissance et de son origine, sont très indispensables pour qu'il y ait petit à petit une juste distance entre l'enfant et puis les parents, pour que l'identité petit à petit se fasse. Elle croisse. En l'absence de laquelle, donc distance, la mère, elle aura une tentation, c'est de répondre à tous les caprices de l'enfant aussitôt, immédiatement. Et c'est le problème, si vous voulez, d'une éducation trop axée sur le point de vue des blessures psychologiques seulement, et qui ne regarde plus du tout le père. Que, d'ailleurs, on voit que c'est un phénomène de société, les jeunes femmes, de plus en plus, aiment qu'il n'y ait pas le père. Ça donne des, on appelait ça avant des filles mères, mais on appelle ça de manière d'un mot plus noble aujourd'hui, je crois, non? Les mères célibataires, c'est ça. Pourquoi? Parce que il faut que la mère soit tout le temps là, tout le temps là. Je me rappelle quand mon frère, moi j'en suis censé parce que c'est mon jumeau, donc j'ai pas eu d'enfant, mais il s'est marié avec une charmante épouse. Et puis quand le petit gosse, il faisait une bêtise, je sais pas quoi, il disait: tu te lèves de table, dans le coin, et puis à genoux. Alors un petit garçon, je voyais ça, je voyais la maman, je dis: Oh ben... Vous voyez, instinctivement, quand une mère n'est pas remplie d'amour, l'amour du père, ça la choque. Et elle veut... est tout le temps là. Pour être seule à aimer l'enfant, et elle ne veut pas que l'enfant soit aimé par l'unité des deux, et encore moins par lui, son mari. Du coup, ça fait des troubles d'identité terribles. Terribles. Et même pour point de vue spirituel, parce que si elle est tout le temps là pour répondre à ses caprices, premièrement, alors son concupiscible va gonfler à l'enfant. Son irascible, elle va pas se développer du tout. Donc concupiscible, spirituellement, ça correspond à quoi? Concupiscible, c'est le désir d'être aimé. Irascible, s'il est bien ordonné, c'est le désir d'aimer. C'est la force d'aimer. Et du coup, lui-même, il sera paralysé et il n'y aura plus d'espace pour l'amour de Dieu. Parce que si on répond tout le temps aux caprices pour le calmer, pour que ça soit bien, que ça soit pas traumatisé, qu'il ne soit pas, comment est-ce que vous appelez ça, castré. On n'est pas castré celui qui pense, hein. On n'est pas castrateur celui qui pense. Alors voilà, il n'y a plus d'espace pour Dieu. Il n'y a plus d'espace pour le Père, il n'y a plus d'espace pour l'identité. C'est l'égoïsme fondamental de la femme, ça, lorsqu'elle est détruite dans sa fécondité maternelle, parce qu'elle-même n'a pas trouvé son identité de femme. Alors elle veut bloquer l'enfant au stade où elle s'était arrêtée. Elle refuse l'amour de ses parents. Regardez, comme quelquefois, c'est si difficile d'admettre que ça... son enfant se marie, par exemple. Oh là 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 là. Sa fille rentre au couvent. Oh là là là. Mais ils ont des tentations, quelquefois, de foutre des bombes dans le couvent. Hein. Ça va très très loin, vous voyez. La perte de la paternité. La lutte contre la maternité, la destruction d'identité. Et ça s'enracine jusque dans ces manques d'attention originelles. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait ces distances, voyez. C'est pour ça que le père il dit, écoute, le gosse il pleure, laisse-le tranquille, je suis là. Attends, attends, on va mettre une prise avec audio pour voir s'il pleure là-haut. Non, mais faut vraiment, il pète les fusibles. Hein. C'est la même chose que la fivette. Hein. C'est pareil. Et le mari, spontanément, il dit, écoute, laisse-le crier, ça fortifie son irascible. Il ne le dit pas comme ça. Laisse-le, il se calmera. On t'unira que quand il sera arrêté de crier. Ah non, alors, quand même, mais peut-être qu'il s'étouffe. Enfin, peut-être que... Non, il ne s'étouffe pas du tout. C'est toi qui étouffes. Ma chérie. Et du coup, tu es étouffante. Et il ne peut plus vivre. C'est extraordinaire. Et le père, il sent ça. Égoïste. Alors, tu vois, là, je balance une espèce d'égoïste. Ça, alors, c'est la meilleure. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il faut sentir... cette nécessité de l'amour de ses parents, cette nécessité de la paternité, cette nécessité aussi de la maternité. Hein. Mais il faut comprendre où la maternité s'enracine. La maternité s'enracine dans l'unité sponsale. S'il n'y a plus d'unité sponsale, il n'y a plus de maternité. C'est fini. Vous voyez ? C'est assez extraordinaire, l'ambiance dans laquelle on est, qui est une espèce de consumérisme systématique. Oh, il y a une vitrine. Oh, vite, j'achète la glace Magnum. Enfin, j'avoue que la glace Magnum, c'est génial. C'est très bon. Surtout quand il n'y a pas de magasin à distance, on t'apporte des glaces Magnum dans une grotte. C'est formidable, ça. Si vous en voulez, oh oui. Une glace Magnum. Mais c'est consumérisme systématique. Bon, j'ai envie, le film. J'ai envie, je vais téléphoner. Oh, j'ai envie. C'est assez effrayant, c'est assez embêtant, parce que justement, ça correspond à toute une espèce de névrose collective qui évacue la paternité donc de Dieu, mais aussi l'amour humain. C'est l'efficacité et la fécondité, vous savez. C'est souvent antinomique, pas tout le temps, mais souvent. que ce soit réordonné, bien sûr, toujours. Et on ne sait pas, si vous voyez, comme parents, on a beaucoup de mal à assumer que ce fait que nos enfants soient en manque. On a beaucoup de mal à accepter ça. On ne veut pas laisser d'espace à la paternité de Dieu. On ne veut pas laisser d'espace à ce désir, à cette demeurance dans la persévérance humble du secours de Dieu. Grâce à cette séparation, aussitôt, on va essayer. On ne supporte pas qu'un enfant soit en manque. Regardez un adolescent, on va y venir. Un enfant, un adolescent, c'est terrible. Il est en manque total. Regardez comme on a du mal à le supporter. On ne le supporte pas. Et en même temps, on est... Bon, on verra. Mais grâce à ça, ils vont grandir dans le désir. Vous comprenez? Là, ici, on en est encore à la phase de la naissance. C'est les 6 premiers mois, 9 premiers mois après la naissance. C'est cette phase... C'est, le bébé crie. Bon, le désir grandit... Mais grâce à ces petits désirs, lorsqu'on leur laisse un espace de s'exprimer, de demeurer, de persévérer, puis de se calmer, ce serait formidable, vous voyez, si on avait cette habitude, du coup, de prier. Rappelez-vous, par exemple, ce que faisait Evelyne quand elle allait à l'hôpital pour aller voir Rosemary. Elle avait quand même 5 autres enfants, je crois, à la maison, c'est 4 enfants, 4 autres enfants à la maison. Elle ne pouvait pas être tout le temps, près de Rosemary à l'hôpital. Donc, quand elle partait à ses parents, et son mari aussi était à la maison. Donc elle dit, je dois partir. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle faisait? C'était une mère admirable. Et, étant une mère admirable, elle disait à Marie, je ne peux pas rester. Eh bien, c'est vous qui me remplacez. Et vous avez intérêt, hein? Mais... Et la Vierge l'a remplacée. Elle l'a remplacée. À certains moments, elle l'a remplacée même physiquement. Donc la petite, elle discutait avec la Sainte Vierge. C'est sûr, ça. Et là, pourquoi est-ce que l'enfant n'aurait pas droit à une mère parfaite? Pourquoi est-ce que l'enfant n'aurait pas droit à Dieu? Pourquoi est-ce que l'enfant n'aurait pas droit à la vie? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas droit à ses petits désirs, à ses croix, à ses manques, à ses séparations, à ses souffrances, si vous voulez, à ses épreuves qui permettent de faire grandir le désir et d'être profondément accueillant? Et du coup aussi, moi en tant que père et mère, eh ben je supplie aux suppléances d'intervenir. Les suppléances paternelles, les suppléances divines, les suppléances de grâce. La société de consommation, la permissivité, comme disait le pape au Parc des Princes, en 84, je crois, au Parc des Princes, la permissivité ne rend pas l'homme heureux, cher jeune. La société de consommation ne rend pas l'homme heureux. L'homme a une dimension des dons et du désir de Dieu. Alors là, je me rappelle, moi j'écoutais à la radio, et il y avait les commentateurs qui disaient « Oh là là, ce qu'il est en train de dire, il va se faire huer !» Il y avait le commentateur qui disait « Oh là là, ce qu'il est en train de dire, il va se faire huer !» La société de consommation ne rend pas l'homme heureux. Quand il a dit « La permissivité ne rend pas l'homme heureux », il n'a pas pu parler pendant au moins 2 minutes. Il hurlait de bonheur. Mais c'est évident, enfin. C'est le père qui leur a dit ça. Hein. C'est un père qui leur a dit ça. Voilà ce qu'ils ils avaient besoin d'entendre ça. Ils avaient besoin d'un père qui leur dise ça. Parce qu'on les a foutus dans une espèce de marécage maternoïde. La société fusionnelle, ratissante, qui refuse que ce soit des personnes qui rabattent tout à la tondeuse de l'individu. C'est des individus, c'est pas des personnes. C'est ce que dit le sociologue Durkheim explicitement. Si vous regardez la gestion d'une communauté politique, sociale et familiale, autrement les hommes, les femmes et les individus, autrement que comme des objets, eh bien vous ne pourrez jamais gérer cette communauté humaine. Le fondateur de la sociologie. Il faut considérer les hommes comme des objets. Un rabat. À ce moment-là, tu peux engendrer une communauté humaine. Oh, quelle vision de la maternité. Quelle vision de l'autorité, du pouvoir. Quelle vision de l'homme extraordinaire. Quelle intelligence. C'était dedans. Alors, vous savez bien que... hein, la sociologie, c'est elle qui domine.
Et quand il y a l'époque pour l'instauration du régime républicain, parce qu'un ami de Jules Ferry travaillait pour eux.
Oui, ça c'est sûr, il fallait bien qu'ils inventent, et c'était très très gros, parce qu'ils inventent, il fallait qu'ils inventent des doctrines. Alors on a inventé des doctrines, et aujourd'hui on les trouve énormes. Mais enfin, elles ne sont pas si énormes que ça, puisqu'elles s'appliquent parfaitement. Dans la pratique, c'est l'application totale. Hein. Bon, ça, c'est un autre problème. Pour nous, ça paraît énorme aujourd'hui, mais au niveau philosophique, ça paraît énorme. Mais on est quand même imbibé par ça, tout ça, ça c'est certain. Voyez. Donc, il faut laisser les enfants grandir, accepter qu'il y ait ces souffrances de l'enfant, qu'il soit en manque. Et de manière que la mère, il faut qu'elle accepte petit à petit, si elle aime vraiment l'enfant, il faut qu'il puisse vivre dans des espaces de séparation. Pas. Et qu'elle laisse le père aller au secours de l'enfant lorsqu'il est dans la détresse d'une souffrance séparante. C'est toujours le père qui gère l'amour séparant. Et la mère, voyez, parce que le père est beaucoup plus apte à gérer, à engendrer cette croissance donc dans l'identité. Cet combat. La croissance dans l'identité, c'est toujours à travers une lutte, un combat, une souffrance, un manque, un danger. Et le père est là pour qu'il puisse y avoir ce danger, pour qu'il puisse y avoir cette épreuve, cette mise à l'épreuve, cette séparation. Cette distance. À 8 à 9 mois, donc au double de sa vie, 9 mois avant la naissance, 9 mois après la naissance, double de sa vie, et l'enfant a une phase dépressive. Le bébé a une phase dépressive parce que jusqu'à maintenant, quand il y avait des distances, il hurlait, il pleurait, mais il n'en avait pas conscience. C'était des réactions instinctives, des réactions physiques, quelque part. Des réactions spirituelles et physiques. Tandis qu'à partir de 9 mois, il prend conscience que quand il y a des séparations, elle va faire les courses, maman, hein, je suis parti 5 minutes, on va voir. Bon. C'est seulement à partir de 9 mois qu'il peut prendre conscience que progressivement, de plus en plus, la maman le sépare. Ben dis donc, d'abord la naissance, puis le sevrage, au troisième mois, puis, de plus en plus, elle a perdu son congé maternité, puis, il s'aperçoit, il prend conscience que c'est de plus en plus. Alors, il a, à cause de ça, et il en prend conscience, c'est surtout ça, c'est la prise de conscience que la prise de distance va être progressivement de plus en plus grande. Et donc, il va y avoir cette phase dépressive. Et c'est pour ça que ça va se manifester, il ne faut pas s'en affoler du tout, par des pleurs. Parce que c'est seulement à cet âge-là, quand il a 3-4 mois, l'enfant normalement pleure pas si vous le mettez dans les bras du parrain, de la marraine, de l'oncle, de la tante. Tandis qu'à 9 mois, oui. 9 mois, 10 mois, vous le mettez dans les bras de l'oncle, ou, et même du frère ou de la petite sœur, ou du grand frère, petite sœur. Et hop, le bébé commence à pleurer, une phase dépressive. C'est curieux ça, hein. Oui, mais il faut en prendre conscience parce que ça prouve qu'il y a une nouvelle manière de venir le reprendre, lui réexpliquer, même s'il est incapable de comprendre les mots. Et puisque c'est une prise de conscience, il faut lui parler. Même s'il ne comprend pas. Il faut l'aimer avec une prise de conscience qui est la vôtre et qui fait qu'il doit accepter, même s'il vient de la dépression, même si ça l'a mis dans un état dépressif. Vous voyez, il y a souvent des luttes contre la dépression qui ne peuvent pas se guérir, très difficilement, uniquement parce que ça a été très mal vécu, cette phase dépressive. C'est la première dépression. Vous voyez, toujours, en fait, c'est Aristote qui dit, si on veut voir clairement les choses en sagesse, il faut toujours regarder le premier, l'origine. Donc la première fois qu'il y a une séparation. La première fois, donc c'est la première fois qu'il y a une séparation, c'est le huitième jour. C'est le septième jour, après la conception. Puis la première fois où c'est dans la lumière, c'est la naissance. La première fois qu'il y a une la première fois qu'il y a une dépression, c'est ici. Neuvième mois. Alors, c'est pour ça qu'à cause de cette phase dépressive, il va y avoir des conversions somatiques. L'enfant, il va commencer à avoir des boutons, il va commencer à faire, vous le savez, hein, n'est-ce pas, ça va devenir, comment on appelle ça, des eczémas, enfin, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Il va avoir des affections, des maladies corporelles. Et même, si vous allez le mettre dans un miroir, si vous l'aimez, si vous lui dites, mais tu sais, il ne faut pas t'en faire, c'est bien, c'est ton frère, et c'est pas parce que je te mets avec ton grand frère que je t'abandonne, hein, je t'abandonne pas, etc. Et puis regarde, et puis vous l'amenez dans un miroir, regarde là, tu vois, c'est toi. C'est bébé. Et pour la première fois, grâce à cet amour-là, à l'intérieur de la dépression, une distance plus grande s'est faite, il peut se reconnaître dans un miroir. Facile à repérer, ça. Moi, ma mère, elle me disait toujours, mon père aussi, mes soeurs, on nous mettait devant un miroir, les jumeaux. Alors, on ne savait pas parler, mais tiens, c'est au bout de ça, donc c'est ah non, c'est toi. Mais c'est pas l'autre, hein. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est pas mon jumeau, c'est moi. Entre parenthèses, je trouve ça ridicule qu'on sépare des jumeaux. Mais ça, c'est parce que les gens sont traumatisés. Ils sont là il y a des, je sais que c'est une école universelle en psychologie, c'est des jumeaux, ils ont une habitude gémellaire, il faut les séparer. Mais c'est parce qu'en psychologie on ne supporte pas la paternité, donc on supporte pas l'amour séparant, alors on l'introjecte sur la différence gémellaire. Il faut séparer les jumeaux. Du coup ils peuvent plus être jumeaux. Alors là ça fait des ravages. Moi je peux vous en parler, ça. C'est une catastrophe. Parce qu'en psychologie pure, on ne supporte pas l'amour. De jumeaux s'aiment jusque dans la chair. C'est insupportable pour un psychologue. Pour un psychologue pur. Ça fait partie de sa nature, ça fait partie de son identité, ça fait partie de ses dispositions, ça fait partie de sa personne. Il a commencé avec un amour de Dieu, avec l'amour de sa mère, et il a fait une seule chose. Ah, c'est sûr. Il s'aime. Pas besoin de la mère. Pas besoin de la société. Et la société n'aime pas ça, vous savez. J'ai pas besoin des autres, moi. Enfin, si j'ai besoin des autres, j'ai besoin de mon frère. Et si mon frère se sépare, il y a un nouvel amour qui peut apparaître. Mais pas enfant. C'est pas le moment encore de la sociabilité, de la sociabilisation. Des relations sociales, si vous voulez, familiales, communautaires, pas encore. Alors on veut séparer, alors il faut qu'ils soient habillés différemment, il faut qu'il y en ait un qui soit habillé avec des queues de cheval, l'autre rasé. Ah non, mais c'est incroyable. Incroyable. C'est en plus, dans les bouquins, ils mettent ça. C'est quand vous mettez entre les pattes de... Ouh là là. Bon, bref. à 2 ou 3 ans, il y a une phase de qu'on appelle la phase de contre-dépendance. Alors, la phase de contre-dépendance, c'est la première adolescence. Et souvent, parce que les parents n'ont pas vraiment été à la hauteur, pas de leur faute, la plupart du temps, à ce moment-là, que ça devient extrêmement difficile à la seconde adolescence. Cette phase de contre-dépendance est très importante. Vous comprenez bien qu'ici, on commence à verbaliser. L'enfant à 2 ans commence à verbaliser. Il commence à pouvoir prononcer des mots, à pouvoir conceptualiser et abstraire. Et du coup, il rentre, si vous voulez, il a la possibilité, avec son verbe intérieur, avec ce qu'il conçoit, avec ce qu'il abstrait, de prononcer un mot. De prononcer un mot qui lui est propre. Et pour montrer bien que ce mot lui est propre, qu'il est différent du point de vue du mot, uniquement du mot, il va dire non tout le temps. C'est la fameuse phase du non. Alors, Titi, est-ce que tu aimes ton papa, ta maman? Non! Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu aimes ton papa, ta maman? Bon alors, écoute, tu vas prendre du yaourt. Parce que là, il va pas dire non, il adore ça. Non! Et alors, les parents sont désemparés. Tu dis, mais. Qu'est-ce qui se passe? Cette phase de contre-dépendance est très importante, vous voyez, parce que il vous regarde comme ça, le gosse, droit dans les yeux, et vous dit non. Et puis, têtu, hein. Puis c'est d'un seul coup. Et puis vous dites, mais. Alors, le gosse, il vous voit. Ben quoi? Il vous voit. Pas supporté, quoi. Comment ça, il dit pas oui quand je dis oui? Il dit pas non quand je dis non. Elle dit maman, dis maman, non. C'est très important. Vous vous rendez compte comme c'est important pour lui? C'est important pour lui. Il peut dire son mot à lui. Et la mère ne le supporte pas. Elle n'aime pas ça. C'est la mère psychosée hein, qui n'aime pas ça. La mère humaine était merveilleuse. Oh, enfin, tu dis non. C'est bien. C'est très bien. Tu dis non. Non. Je ne dis pas non. Ah, c'est très bien. Et vous voyez, c'est important pour l'enfant parce qu'il découvre à ce moment-là qu'il passe du stade du bébé, le bébé, il a faim. Le bébé, il est avec sa maman. Le bébé, il est idiot. Oh, le bébé, il ressemble beaucoup à son papa, hein? Alors, il dit non. Il passe de bébé, il, impersonnel, à je.
Je ne suis plus
un bébé. Je. Et c'est, il rentre pour la première fois dans l'expérience du plaisir de sa propre volonté. Je existe. Je vis. Et je l'exprime. Il faut que cette opposition-là apparaisse. C'est excellent. C'est excellent. Et c'est très important de la faire vivre, cette opposition, pour qu'il puisse vivre dans son... dans cette prise de conscience, dans cette volonté qui lui est propre, pour qu'il puisse être lui-même, vous comprenez? Parce que il faut qu'il découvre qu'il a une volonté, un cœur, et qu'il est respecté. Il faut qu'il découvre qu'il a une autonomie spirituelle, puisqu'il abstrait déjà, et qu'il est respecté. Et c'est ça qu'on aime de voir arriver. la prise de distance, comme on l'a beaucoup aimé déjà dès la naissance, dès le sevrage, et qu'on a toujours revécu un amour toujours plus fort, toujours plus profond, toujours plus respectueux, et qu'on a bien été attentif à toutes ces phases. À ce moment-là, cette phase-là, le père et la mère vont permettre à l'enfant de découvrir à ce stade-là, pour la première fois, donc, qu'il est unique. Et son désir, sa volonté profonde est respectée. Et vous voyez, ça va durer tant qu'il ne sera pas aimé d'un amour nouveau. Et cette phase de contre-dépendance va être, si elle est très très pas du tout respectée, si elle est vécue traumatiquement par les parents, si elle dit mais enfin, eh ben tu vas avoir une fessée, viens ici, pap 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 pap, oh que tu es laid, oh que tu es moche, oh que tu es méchant, etc. Eh ben vous allez voir son adolescence. Là, ça va payer. Et ce ne sera pas de sa faute. On récolte ce qu'on a moissonné. Mais à son adolescence, il pourra guérir de ce qui s'est passé là. On n'a pas aimé qu'il dise non. Quand il avait 2 ans. Il pourra guérir parce qu'on pourra renouveler, se convertir, être à nouveau père et mère dans la prise de distance de l'adolescence. Plus difficile et c'est plus long, mais c'est plus grand. Donc il découvre qu'il a un droit naturel à être moi, à être je, à être différent, à être pas pareil, à pas dire pareil, à pas aimer pareil, à aimer mais pas pareil. Alors il peut se mettre debout face à son père et à sa mère. C'est beau ça, quand l'homme commence à pouvoir dire un verbe. Quand le verbe peut s'exprimer, ça y est, il est debout face à son père et à sa mère. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il commence à bien marcher, courir, vous savez bien ça. Donc comment les parents vont-ils gérer ce conflit? Vous savez, selon la manière dont ils gèrent dont eux-mêmes ont été gérés par leurs propres parents, ils vont renouveler ça sur leurs propres enfants, et dans la manière dont ils gèrent ce conflit-là, eh bien, parce que c'est pour la première fois, ils sont père et mère, selon la manière dont ils gèrent ce conflit-là, ils vont retrouver les mêmes gaffes hein, spirituelles, si je puis dire, dans leur relation avec ceux qui ne sont pas comme nous. Avec ceux qui ne sont pas comme eux. Ben, lui, c'est un arabe, dit. C'est un arabe. Il est différent de nous, dit. Alors, on a une relation difficile. La relation avec quelqu'un qui est différent. La relation avec les pièces rapportées. Pas à gérer. Souvent, on n'arrive pas à gérer ces relations avec les autres qui sont différents de nous parce qu'on n'a pas su être père et mère avec son enfant à cet âge-là. Parce que le fait d'avoir des enfants, ça guérit hein, les relations. Et si on a pu aimer cet enfant de cette manière-là, après, on n'a plus tellement de problèmes avec quelqu'un qui est différent de nous. On l'aime autant, on l'aime beaucoup, on peut beaucoup l'aimer. Il n'y a pas de blocage irrépressible. Alors, c'est pour ça que c'est bien d'être attentif. Pour nous, déjà, vous voyez, c'est bien, ces étapes sont bien, mais à chaque fois, il faut que vous fassiez un amnèse. Vous voyez, en ce sens que vous dites, tiens, si... Comment est-ce que je suis avec quelqu'un qui est complètement différent de moi, qui n'est pas comme moi? Comment est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis par l'angoisse, une peur panique? Est-ce que je réagis par une agressivité? J'ai envie de le foutre en l'air. Est-ce que je réagis par... Et en fonction de ça, rappelez-vous, que vous reproduisez une blessure antérieure sur laquelle il faut réaliser un pardon, faire un amnèse, il faut reprendre ce qui a été mal fait en désirant redonner vie différemment, même si c'est trop tard, et en se convertissant du coup avec la relation qu'on a, même s'il y a angoisse ou agressivité, en dépassant cette agressivité, en se servant pour retrouver un enfant perdu depuis 20 ans, n'est-ce pas ? Se servir d'un étranger qui passe, une pièce rapportée à la maison, pour qu'il y ait une guérison sur son propre enfant 20 ans après. Ça que ça sert la nanesse. À ce moment-là, quand votre prière, si vous envoyez l'Immaculée, vous dites à Marie, ben vous me remplacez. Et puis vous avez intérêt. Mais vous n'avez pas à dire à Sainte Vierge ou à Jésus ou au Père, vous avez remplacé tout ce que j'ai raté et vous avez intérêt. Hein, sinon, je tourne la statue dans le sens du mur. Elle sera bien faite si vous ne vous êtes pas converti. Si vous n'avez pas changé par rapport à celui qui est là maintenant et qui est dans la même situation et vous met dans un même état que celui dans lequel vous avez été mis lorsque l'enfant avait 2 ans et qu'il était en phase de contre-dépendance. On va dire le chapelet, on va demander à Marie de nous aider à retrouver l'espérance, la confiance, l'humilité, l'abandon et l'amour de l'état vulnérable pour qu'il y ait un amour éternel qui s'engendre en nous.